Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant toute cette heure d'émission en français. Au menu aujourd'hui, on va parler environnement et plus précisément des feux de forêt qui ont ravagé l'Australie il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Des chercheurs viennent de démontrer que les fumées dégagées par ces incendies ont fait naître un continent d'algues en plein milieu de l'océan. On en parlera avec l'un d'entre eux. Et puis comme toujours, on fera aussi le point sur l'actualité sportive. Et le samedi, vous le savez, c'est le jour de notre rubrique rétro. On fait aujourd'hui un bond de 10 ans en arrière, le 25 septembre 2011. C'est le jour où, pour la première fois dans l'histoire de France, le Sénat a basculé à gauche. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 25 septembre. Après un premier rapprochement entre la France et les États-Unis, Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont entretenus hier et fait part de leur souhait de continuer à travailler étroitement ensemble malgré la crise diplomatique déclenchée la semaine dernière par l'affaire des sous-marins. En Nouvelle-Galles du Sud, près de 85% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. Et en Allemagne, où on vote demain dans le cadre des élections législatives, des manifestations pour le climat ont agité hier les grandes villes du pays. La semaine sur le front de la diplomatie a été chargée pour Scott Morrison, qui est actuellement aux États-Unis. Hier, il a rencontré ses partenaires du Quad, cette alliance sécuritaire qui rassemble l'Australie, les États-Unis, le Japon et l'Inde. Une rencontre, la première en face-à-face qui s'est déroulée à la Maison-Blanche, à Washington donc, et à l'issue de laquelle Scott Morrison a annoncé l'organisation l'année prochaine en Australie d'un sommet sur les énergies propres sous l'égide donc de ce Quad. Sur les questions de défense et de stratégie qui sont au cœur de cette alliance, il a indiqué que lui, Joe Biden, mais également le Japon et l'Inde étaient complètement d'accord concernant la Chine qui depuis quelques années accroît considérablement son influence politique et militaire dans la zone Indo-Pacifique. Et cette montée en puissance, eh bien, elle inquiète autant Canberra que Washington. On écoute Scott Morrison.
We are liberal democracies that believe in a world order that favors freedom, and we believe in a free and open Indo-Pacific. Because we know that's what delivers a strong, stable and prosperous region. So our citizens, our peoples, can realise their hopes and dreams for their futures in a liberal and free society.
Après un début de rapprochement amorcé cette semaine entre la France et les États-Unis, un rapprochement qui fait suite à la crise diplomatique déclenchée par l'affaire des sous-marins, il semble que l'heure de la réconciliation entre Paris et Londres soit également venue. Vendredi, Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont mis d'accord pour continuer à travailler en étroite collaboration, même si, au-delà de cette affaire des sous-marins, les sujets de contentieux entre la France et le Royaume-Uni se sont accumulés depuis le Brexit. Explication avec Christophe Paget pour Radio France Internationale.
Ils ont réaffirmé l'importance de la relation entre le Royaume-Uni et la France, s'est félicité un porte-parole de Boris Johnson. Depuis le début de la crise des sous-marins, Paris avait multiplié les signes de mécontentement vis-à-vis de son allié. Annulation d'une rencontre prévue cette semaine entre les ministres des armées des deux pays, refus du ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian de rencontrer son homologue britannique à l'Assemblée générale de l'ONU, et puis la décision de Paris de ne pas rappeler l'ambassadeur de France à Londres contrairement à ses collègues de Washington et Canberra, avec ce commentaire venimeux. La Grande-Bretagne dans cette affaire, c'est quand même la cinquième roue du carrosse. Boris Johnson l'avait appelé mercredi, et en franglais, Paris à se ressaisir. Donnez-moi un break. Un premier entretien a donc eu lieu ce vendredi pour réduire les tensions, mais d'autres dossiers autrement plus épineux perdurent. Les conséquences du Brexit, avec entre autres le problème des zones de pêche dans la Manche, le contrôle jugé insuffisant par Londres des migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre depuis les côtes françaises, Londres parle de les refouler vers la France, la détente entre les deux pays est encore en chantier.
On revient en Australie et la Nouvelle-Galles du Sud qui aujourd'hui recense 1007 nouveaux cas de Covid, mais aussi le décès de 11 personnes, parmi lesquelles 9 n'étaient pas vaccinées. Pourtant, sur ce front-là, les choses avancent bien à travers tout l'État. On a désormais près de 85% de la population âgée de plus de 16 ans qui a reçu au moins une dose et 57,8% qui est complètement vaccinée. Le docteur, Jeremy McAnulty de New South Wales Health a pour sa part précisé que des inquiétudes persistaient concernant certaines régions de l'État sans cas connus, mais où les prélèvements réalisés dans les eaux usées ont permis de détecter des fragments du virus. On l'écoute.
This has been Tamworth in the northwest of the state, Deraton and Balranald in the far west, Oberon in the central west, Dungog in the Hunter, and Eden on the south coast. So anyone living in these communities, please watch out for symptoms and come forward for testing.
Et sur les chiffres du jour du coronavirus dans l'état du Victoria, le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter. On en recense aujourd'hui 847 ainsi qu'un décès également annoncé ce matin. C'est la raison pour laquelle le vaccin AstraZeneca n'a longtemps été conseillé qu'aux personnes âgées de plus de 50 et même à un moment de plus de 60 ans. Ce vaccin présentait, dans des cas très rares, un risque de développer un caillot sanguin qui pouvait potentiellement conduire à la mort. Eh bien, le patron de la TGA, qui délivre en Australie les autorisations de mise sur le marché pour les vaccins, il vient d'expliquer que ce risque de décès, même lorsqu'on est affecté par un caillot sanguin, au final, eh bien, il est beaucoup plus faible qu'initialement envisagé. Lorsque les premiers cas étaient apparus, les autorités pensaient qu'environ 25 personnes qui avaient contracté un caillot sanguin décéderaient, mais en fait, les chiffres et l'analyse des cas constatés en Australie révèlent que le taux de mortalité n'est que de 5,6%. Par ailleurs, le professeur John Skerritt a indiqué sur la chaîne ABC que les autorités étaient en mesure de reconnaître les symptômes de ces caillots sanguins de plus en plus tôt. On l'écoute.
So they'd go and see their doctors and hospitals early if they say had a really bad headache after AstraZeneca. And all those things have really contributed to the fatality rate in Australia being one third of what it is in the UK.
Alors je vous le disais, la vaccination en Australie dans la population générale après un démarrage assez poussif avance désormais plutôt bien. En revanche, les grands oubliés de cette campagne, ce sont les étrangers placés dans des centres de détention en Australie. Moins de 20% d'entre eux étaient vaccinés à la fin du mois d'août et ce, malgré les risques de transmission élevés auxquels ils sont confrontés puisque dans ces centres de détention, la promiscuité avec les autres détenus est très élevée. Sur la question des immigrés détenus, l'Australie vient de signer hier un nouvel accord avec Nauru afin de poursuivre leur collaboration pour la détention des réfugiés et demandeurs d'asile dans un centre qui se trouve donc ce micro-État du Pacifique Sud. Dans une déclaration commune, la ministre australienne des Affaires intérieures, Karen Andrews, explique que ce nouvel accord vise à renforcer leur engagement à empêcher les trafics de personnes par voie maritime. Rappelons que depuis août 2012, l'Australie envoie systématiquement les réfugiés et demandeurs d'asile qui tentent de gagner l'Australie par la mer dans ces centres de détention offshore, des centres où ils restent enfermés indéfiniment et sans aucun espoir d'être un jour accueillis en Australie. cette politique vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d'asile est qualifiée d'inhumaine par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et attentatoire aux droits de l'homme par de nombreuses ONG. Aux États-Unis, quatre proches de l'ancien président Donald Trump viennent d'être assignés à comparaître dans le cadre de l'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Ils vont devoir décrire très précisément les faits et gestes de l'ancien président pendant cette période agitée. Ce dernier, Donald Trump, étant accusé d'être responsable de cet assaut contre le siège du pouvoir législatif américain. On écoute Stéphanie Schuller pour RFI.
Mike Meadows, à l'époque secrétaire général de la Maison-Blanche, Dan Scavino, ancien chef de cabinet adjoint, Kashyap Patel, ex-membre du ministère de la Défense. Tous les trois ont été des proches de Donald Trump et à côté ou en contact étroit avec le président le 6 janvier dernier. La commission d'enquête du Congrès veut maintenant les entendre sur le déroulé de cette journée meurtrière quand une foule de sympathisants de Donald Trump a envahi le Capitole. Les parlementaires demandent également une série de documents à ces trois ex-hauts fonctionnaires. Steve Bannon, l'ancien conseiller qui aurait affirmé la veille de l'assaut que tout allait partir en vrille, est également cité à comparaître. Donald Trump lui-même invoque le « executive privilege », une doctrine qui permet à un président américain en fonction et à son administration de ne pas révéler communications et documents sensibles si ceux-ci menacent le fonctionnement du gouvernement. Sauf que Donald Trump n'est plus président et sa tentative de restreindre l'accès à l'information, tout comme l'accès à ses anciens collaborateurs, risque d'échouer.
Des manifestations pour la défense du climat ont agité plusieurs villes allemandes hier vendredi. Des manifestations qui interviennent deux jours avant les élections législatives en Allemagne. Demain donc, des élections qui marquent notamment la fin de l'ère Angela Merkel après 16 années au pouvoir. À Berlin, par exemple, la Suédoise Greta Thunberg a accusé les partis politiques de ne pas en faire assez pour lutter contre la crise climatique. Un sujet effectivement assez peu abordé durant cette campagne électorale, mais dans la ville de Cologne, où il y avait également des manifestations, la candidate du Parti des Verts est allée à la rencontre de ceux qui défilaient dans la rue. On écoute le reportage d'Anastasia Becchio, envoyée spéciale de RFI à Cologne.
Annalena Baerbock prend le temps de plaisanter avec les enfants présents en nombre au départ de l'un des cortèges. La candidate des Verts est accueillie par les applaudissements des militants du Parti écologiste sur la pelouse de l'Université de Cologne.
Chaque voix pour les Verts est une voix en faveur d'un gouvernement qui s'engage pour le climat.
Si les sondages donnent les Verts en troisième position, quel que soit le parti gagnant dimanche, il aura du mal à se passer des écologistes, ce dont se réjouit Yuri, 24 ans, étudiant en droit.
On sent que quelque chose peut se passer si il y aura peut-être d'autres partis au pouvoir, Die Grüne et aussi la SPD, qui ont quand même un meilleur programme par rapport au climat. Mon espoir, c'est ce qui change quelque chose.
Les organisateurs de la marche, les militants de Fridays for Future, soulignent qu'aucun des partis en lice n'a de programme suffisamment ambitieux pour satisfaire aux exigences des accords de Paris, y compris les Verts. Moritz Böll de Students for Future.
Nous nous réjouissons que les Verts montrent qu'ils prennent le sujet au sérieux, mais nous trouvons hypocrite que leur programme ne soit pas conforme aux accords de Paris. Notre rôle à nous est de porter ce thème dans la rue. La balle sera dans le camp des Verts à l'issue des élections.
De leur côté, les militants du climat entendent maintenir la pression bien au-delà de l'élection de dimanche. Anastasia Becchio, Cologne, RFI.
Une manifestation hier, il y en a eu également à Kaboul. Sur place, les Afghans protestent contre le gel des avoirs de la Banque centrale afghane par les États-Unis. Au total, plus de 9,5 milliards de dollars, représentant en fait les réserves en devises étrangères de l'Afghanistan et qui sont entreposées à New York ou à la Banque mondiale, ont été gelées par Washington, tandis que le FMI et l'Union européenne ont suspendu le financement de plusieurs projets en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans le 15 juillet dernier. Alors, pour l'un des manifestants, accéder à ces fonds, c'est d'après lui aussi une question relevant des droits de l'homme pour le peuple afghan.
United Nations and any other organization, international organization, who are claiming that we are working for human rights, for the rights of the children, rights of the women, that they should hear our voice and they should raise this issue in the United Nations agenda and any other meetings.
En Nouvelle-Calédonie, longtemps épargnée par la pandémie de Covid-19, le variant Delta fait beaucoup de dégâts. 5 personnes sont décédées hier dans ce territoire français où le taux de vaccination est très faible. Seulement 30% de la population est vaccinée. Mais l'épidémie en cours semble faire changer les mentalités pour accompagner le mouvement. Un vaccinodrome vient d'ouvrir dans le quartier Magenta à Nouméa. On écoute le reportage de Coralie Cochin de Calédonie la Première pour RFI.
J'ai pas de voiture. Avec tout ce qu'ils te disent dessus, c'était pas sûr de moi. Mais là, je me suis décidé, quoi.
Qu'est-ce qui vous a décidé alors ?
On voyait tout ce qui se passe, les morts, l'augmentation des malades, quoi. Et ça m'a poussé à aller le faire.
Bah là, il y a eu beaucoup de morts aussi. Et du coup, on a dit venir se faire vacciner.
Au début, on croyait pas au vaccin. Mais à cause de voir tous nos vieux qui sont en train de partir, il y a de la belle famille qui sont partis. Bah, on a su hier, il faut réagir. Hein. Allez vous faire vacciner. C'est important pour le pays. Faut pas qu'on perde nos vieux. Parce qu'on a besoin d'eux avec nos jeunes.
J'ai 34 ans, j'habite autour de Magenta. Comme il y a un proche à moi, il a le Covid. C'est ma première dose, alors j'ai peur aussi, je m'inquiète. Mais pour notre santé, j'ai décidé de venir faire le vaccin.
Vous êtes venu à pied en voiture ?
À pied, du côté de l'aérodrome.
Je commence à m'inquiéter parce que je me suis aperçue qu'il y avait trop de décès. Des amis, des proches. Je me suis enfin décidé de venir me faire vacciner pour tout le monde, pour mes amis, pour le peuple.
On termine ce bulletin d'information avec un point sur la météo de ce samedi en Australie. 27 degrés et grand soleil aujourd'hui à Perth. Il fait en revanche plus frais à Adelaide, 16 degrés. Quelques averses à Melbourne, 13 degrés. Ciel nuageux à Canberra, 16 degrés. 21 degrés à Sydney où pour l'instant il fait beau mais la journée pourrait se terminer par des averses. 30 degrés et grand soleil à Brisbane et jusqu'à 33 degrés à Darwin. Molotov 4, c'est le nom de ce titre interprété par Sefiu. Tout de suite, on passe au magazine des sports. Magazine des sports, c'est parti. On commence tout de suite avec le football en Europe. En Ligue 1, les rencontres marquantes de cette 8e journée, ce sera cette nuit. Lyon reçoit Lorient et le PSG, premier au classement, mais qui peine pour l'instant à convaincre malgré la recrue de cet été, Lionel Messi. Le PSG reçoit pour sa part Montpellier, actuel 10e au classement. Et puis dimanche, il y aura l'Olympique de Marseille, actuellement 2e au classement. Il jouera contre Lens pour sa part en 4e position. En Première Ligue, le choc du week-end opposera lui Chelsea et Manchester City. Ce sera la première rencontre entre ces deux clubs qui, il y a 3 mois, se sont affrontés en finale de Ligue des Champions. Une rencontre qui a été remportée par le club londonien qui, par ailleurs, est actuellement premier du championnat anglais. Alors que le club mancunien, lui, avec 3 points de moins, est actuellement 5e, mais son entraîneur Pep Guardiola assure que la défaite subie en juin dernier s'est déjà oubliée.
Cela n'aura rien à voir avec la finale de Ligue des Champions, ce sera différent des matchs précédents contre Chelsea, différent aussi d'une finale de coupe. La finale de Porto, c'était un match serré, comme vous le savez, nous l'avons perdu. À cette époque, le championnat était pratiquement gagné. Évidemment, la finale de Porto, c'était un match très très important, nous avons essayé de tirer les enseignements de cette défaite. Mais là, nous affrontons Chelsea en championnat, c'est un nouveau match qui a lieu après 3 derniers excellents résultats.
L'autre rencontre à suivre en Angleterre ce week-end, ce sera dimanche, le derby londonien opposant les Spurs de Tottenham à Arsenal. Deux équipes qui, en ce début de championnat, peinent un petit peu. C'est particulièrement vrai pour Arsenal, actuellement 13e au classement et qui vient de subir par ailleurs 3 défaites d'affilée. Mais son entraîneur, Miguel Arteta, assure qu'il a parfaitement conscience de l'importance de cette prochaine rencontre.
Les joueurs comprennent bien ce qui est en jeu contre Tottenham, l'histoire de ces deux clubs, d'où vient cette rivalité, ce que cela représente pour les supporters. Il faut jouer ce match avec une autre mentalité, car il y a bien plus en jeu.
On passe maintenant au rugby avec 2 matchs internationaux dans le cadre du Championship. À 17h, la Nouvelle-Zélande joue contre l'Afrique du Sud. Afrique du Sud qui vient de subir 2 défaites coup sur coup contre l'Australie. Et les Wallabies, justement, joueront eux à 20h contre les Pumas argentins. Et puis, c'est aussi un jour de finale en AFL, le football australien. Une finale qui se joue à Perth à 17h, heure locale. Elle opposera les Demons de Melbourne aux Western Bulldogs, qui sont, à vrai dire, aussi de Melbourne, Footscray pour être tout à fait exact. On dit également un mot sur le tennis avec hier soir les quarts de finale à Metz dans le cadre de l'ATP 250. Le français Gaël Monfils s'est imposé 6-3-6-3 face à Basilashvili. Le polonais Hurkacz l'a lui emporté face à Andy Murray 7-6-6-3. L'espagnol Carreno Busta a vaincu le danois Rune en 3-7 et l'allemand Gojovcic a gagné en 3-7 également contre l'américain Hiron. A noter enfin, dimanche en Formule 1, il y aura le Grand Prix de Russie. Et puis, il y a aussi ce week-end les championnats du monde de cyclisme sur route. On a aujourd'hui les femmes qui s'affrontent donc par équipe nationale. Et puis demain, ce sera les hommes avec notamment le français Julian Alaphilippe qui va tenter de défendre eh bien, son titre mondial et tenter de conserver son maillot arc-en-ciel. Pour ce championnat, la course partira d'Anvers pour aller jusqu'à Louvain en Belgique, soit une distance totale de 268 km. Et ces courses féminines comme masculines, je vous rappelle que vous pouvez les suivre en direct sur SBS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On refait un point complet sur les sports dès demain. On vient d'écouter un morceau qui s'intitule No Tony, composé par le DJ français Mister Oiseau. Tout de suite, on fait une courte pause et puis juste après, on va écouter du Manu Dimango avant de retrouver notre rendez-vous du samedi, le rétro. Et c'était le grand Manu Dibango et ce morceau qui aura inspiré jusqu'à Michael Jackson et qui s'intitule, vous le savez, Saul Makossa. Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français. Il est 13h33. On passe maintenant à notre rendez-vous habituel du samedi, le rétro sonore. Aujourd'hui, Nous sommes le 25 septembre et il y a 10 ans, jour pour jour, en 2011, pour la première fois de son histoire, le Sénat en France basculait à gauche. La chambre haute du Parlement, dominée par une majorité de gauche, ça aura duré 3 ans seulement. En 2014, le Sénat est repassé à droite. Reste que cette date, le 25 septembre 2011, est une date marquante dans l'histoire de la Ve République. C'est notre rétro sonore du jour, réalisé avec les archives de l'INA et la chaîne Public Sénat.
C'est une révolution de palais, celle du palais du Luxembourg. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Sénat passe à gauche. L'opposition décroche 177 sièges, c'est 2 de plus que la majorité absolue. C'est aussi un sérieux avertissement pour la droite à cette fois-là.
Le Sénat est la chambre haute du Parlement français.
Il détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale.
Au palais du Luxembourg, les sénateurs ont pour mission
de voter les lois
et le budget de l'État,
la séance est ouverte,
de contrôler le gouvernement et de modifier la Constitution.
Une folle nuit, reportage David Doucan, Philippe Maire.
Est un jour qui marquera l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Sénat va connaître l'alternance.
Le sourire des socialistes, celui de la victoire, celui que même les rivaux de la primaire sont capables de partager. Au même moment, à 200 mètres de là, dans l'hôtel particulier de celui qui est encore président du Sénat. Moins de sourires, moins d'applaudissements. La défaite a du mal à passer. Gérard Larcher s'accroche à son siège et conteste aux socialistes leur majorité.
Celle de ce soir a-t-elle les contours du Parti socialiste ? Point d'interrogation. Elle reste à construire. Je serai donc candidat à la présidence du Sénat.
À l'extérieur, en début de soirée, c'est le défilé des éléphants. La famille socialiste est à la parade. Il s'agit de fêter le basculement du Sénat tout en préparant l'alternance à l'Élysée.
Je suis vraiment fier au nom de tous les Français qui attendent un grand changement l'année prochaine.
C'est aussi pour le prochain président de la République, s'il est de gauche, un sérieux atout.
Il est 22h. Dans les bureaux du groupe PS, on arrose l'alternance. Un mot nouveau pour les sénateurs, puisque depuis 1958, c'est-à-dire le début de la Ve République, la gauche n'avait jamais été majoritaire au Sénat.
L'article 24 de la Constitution fait du Sénat le représentant des collectivités territoriales.
Le président du Sénat est le deuxième personnage de la République.
Il incarne la continuité de l'État.
Et il assure l'intérim de la présidence de la République en cas de vacance du pouvoir.
Le Sénat compte actuellement 343 sénateurs. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect
par un collège de 150 000 grands électeurs.
Ce sont les élus locaux de la circonscription qui votent.
Les maires,
les conseillers municipaux
et les délégués des conseils municipaux.
Les conseillers généraux,
les conseillers régionaux
et les députés.
12 sénateurs représentent les Français établis hors de France.
Ils sont élus par l'Assemblée des Français de l'étranger.
Il faut avoir au minimum 24 ans pour être candidat aux élections sénatoriales.
Alors, Régène Sénac-Slavinsky, une alternance au Sénat, on n'y croyait pas.
À la fois, on n'y croyait pas et en même temps, on pouvait s'y attendre, vu l'importance du Parti socialiste et de la gauche en général dans les collectivités territoriales et les différentes victoires qui avaient été les leurs, au municipal et au régional en particulier. Donc, c'est à la fois étonnant pour la Ve République, puisque c'est la première fois durant la Ve République, mais c'est en même temps tout à fait logique par rapport à un équilibre politique des collectivités territoriales. On peut le lire comme un signe et une démonstration de mécontentement de la part des élus locaux, en particulier de ces élus non encartés, des milieux ruraux et des petites communes qui ont sans aucun doute mal vécu le projet de réforme des collectivités territoriales et puis certains, une décentralisation.
Connaissez-vous l'expression « avancer à un train de sénateur » ? Ça veut dire y aller doucement, tranquillement, prudemment, pépère quoi. C'est un peu moqueur parce que depuis toujours on taquine le Sénat. Le Sénat, c'est la deuxième chambre du Parlement. On l'appelle la chambre haute parce qu'on ne peut pas la dissoudre et parce qu'elle n'est pas élue directement par le peuple. La chambre basse, c'est l'Assemblée nationale avec ses députés. Les deux chambres ont le même rôle, le vote de la loi et le contrôle du gouvernement. Mais la plus importante, c'est celle du bas. Pour voter les lois, ce sont les députés de l'Assemblée nationale qui, en cas de désaccord entre les deux assemblées, ont le dernier mot. Alors à quoi sert le Sénat s'il ne peut jamais s'imposer ? À prendre son temps, justement. Les sénateurs sont des parlementaires qui ont le temps de réfléchir sur chaque loi, de vérifier qu'elles sont vraiment applicables et nécessaires, qu'elles ne sont pas trop sévères ou trop brutales. Les débats au Sénat, moins médiatisés, sont plus calmes et apaisés, parce que les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs.
Sans surprise, en France, le Sénat repasse à droite après une courte parenthèse de 3 ans avec une majorité de gauche. Plus de 80 000 grands électeurs ont renouvelé la moitié des sénateurs. Au total, l'UMP et les centristes disposent d'une majorité d'une quinzaine de sièges. Fait inédit, 2 élus du Front National font leur entrée à la Chambre haute.
Ce soir, c'est une défaite pour la gauche, mais une défaite qui est le résultat mécanique de la lourde défaite aux élections municipales, sans qu'il y ait une vague bleue, comme on nous le disait.
À la conséquence des municipales s'ajoute l'exaspération par rapport à l'action gouvernementale. Les deux confondus ont très naturellement permis la victoire de la droite et du centre ce soir.
Au début de la République, on disait du Sénat que c'était la chambre des anciens, la chambre des sages, comme si on devait se méfier de la souveraineté populaire. Bref, beaucoup d'appellations pour une très vieille assemblée à l'allure un peu désuète. Si l'Assemblée nationale et les députés représentent les sensibilités politiques de la population, le Sénat est fait plutôt pour représenter la diversité des territoires de la France. On dit que le Sénat, c'est la chambre de l'histoire et de la géographie. Les sénateurs ont un mode de désignation très complexe. Ils sont élus par un collège de 150 000 grands électeurs. Ce collège est composé d'élus locaux. Et comme il y aura toujours plus de villages que de grandes villes, on dit que les sénateurs représentent plutôt la France des campagnes que la France des villes.
On va maintenant s'intéresser aux feux de forêt qui ont ravagé en Australie plus de 7 millions d'hectares de forêt justement pendant l'été 2019-2020. Et puis, plus précisément, le sujet du jour, ce sont les fumées qui ont été dégagées par ces feux. Elles ont fait l'objet d'une étude publiée la semaine dernière dans la revue scientifique Nature. Dans cette étude, on apprend que ces fumées, elles ont eu un effet assez inattendu dans l'océan Austral. Alors, pour en parler, nous avons avec nous l'un des co-auteurs de l'étude. Il s'appelle Johan Hjort. On va l'écouter. Et on va écouter surtout la première partie de cet entretien. On y va. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur un événement dont, évidemment, on se souvient tous, bien sûr, la terrible crise des incendies qui ont ravagé l'Australie durant l'été 2019-2020. Ces incendies, ils ont été d'une ampleur inégalée. Ils ont également dégagé d'énormes nuages de fumée. Et on a avec nous quelqu'un qui s'y est intéressé de près. Il s'agit de Johan Hjort. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Johan, vous êtes bio-géochimiste marin et vous avez participé à une étude qui a été publiée tout récemment dans la revue Nature, qui s'est intéressée justement à l'impact de ces nuages de fumée sur la vie marine et sous-marine. Et à vrai dire, bah oui, les découvertes que vous avez faites sont à la fois incroyables et un peu inquiétantes. Elles ont, ces fumées, si j'ai bien compris, provoqué un phénomène énorme en plein océan. De quoi s'agit-il ?
Ils ont provoqué ce qu'on appelle un bloom phytoplanctonique. Le phytoplancton, ce sont de toutes petites plantes, elles sont microscopiques en fait, et elles existent partout dans l'océan. Et en fait, sont la base de la vie marine. C'est un peu comme les plantes qu'on a sur Terre. Ils font la photosynthèse, ils utilisent des nutriments et la lumière du soleil pour produire la toute première matière organique de l'océan. Et à partir de là, c'est tout le reste de vie marine qui va venir manger. Du coup, les phytoplanctons, c'est vraiment très, très important. Et en fait, on l'utilise beaucoup parce que c'est un des mécanismes qui agit sur la photosynthèse globale. Ça fait le 50% de la photosynthèse globale, c'est fait par le phytoplancton. Et l'autre 50%, c'est fait pour les arbres sur Terre. Et ce qu'on a vu, c'est que la fumée en fait, de feu, ça générait un patch énorme de phytoplancton sur une surface qui est plus grande que l'Australie. Et en plus, ce qui est plus surprenant, c'est que ça, c'est arrivé dans une région qui est très pauvre en phytoplancton. C'est une sorte de désert océanique. C'est le Pacifique, en fait, le Pacifique Est.
Alors, ce phytoplancton, pour les non-spécialistes, c'est un genre de petites algues, hein, c'est ça ?
C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est juste que dans l'océan ouvert, les algues ne se reproduisent pas comme des grandes algues qu'on peut trouver sur les côtes. Ce sont de toutes petites algues qu'on ne peut voir qu'avec le microscope. Par contre, quand tu n'as beaucoup, beaucoup de surface, en fait, la couleur de l'océan, ça change un peu, ça devient vert. Et c'est ça qu'ils utilisent les satellites pour mesurer la concentration de chlorophylle en surface, excuse-moi, de phytoplancton. La chlorophylle, c'est pareil que les plantes qu'on a à la maison. Le phytoplancton utilise la chlorophylle, c'est un pigment de couleur vert que l'utilise pour absorber l'énergie du soleil. Du coup, c'est ce changement dans la couleur de l'océan que les satellites ils utilisent et comme ça on mesure le phytoplancton à distance.
D'accord. Alors, donc ces phytoplanctons, vous l'avez dit, elles se sont reproduites de façon exponentielle sur une surface énorme, plus grande que l'Australie. Et ce que j'ai cru comprendre également, là où vous étiez assez surpris, c'est que normalement, ce type d'algues de phytoplancton, enfin, c'est déjà arrivé par le passé qu'on en voit apparaître beaucoup à la suite d'incendies importants dans des lacs, dans des petits cours d'eau ou même des bassins de rétention d'eau. Mais ça n'avait jamais été constaté déjà sur une ampleur pareille et en plein milieu de l'océan en plus. C'est ça, hein, ça c'est inédit.
Oui. Oui, ce qui est dit, c'est vrai que ça avait été observé, par exemple, en 2006, je ne me trompe pas, il y a eu un papier, un article scientifique qui était très, très publié sur Science, il était très important aussi. Mais eux, ils ont trouvé un développement de phytoplancton tout près de la côte d'Indonésie, qu'ils ont associé avec des feux de feux de forêt qu'il y a eu en Indonésie. Mais ça, c'était sur la côte. Et on connaît bien que ce genre de phytoplancton, ça peut devenir en très haute concentration près des côtes quand on ajoute de nutriments. Et là, ça peut devenir dangereux. Parfois, on a aussi des phytoplancton toxiques. Dans l'océan ouvert, c'est complètement différent. Et en fait, ce qui est vraiment inédit dans notre étude, c'est qu'entre le feu de l'Australie et l'endroit où on observe le phytoplancton, il y a presque 10 000 km de distance. C'est un genre de ce que parfois, dans le climat, on l'appelle une téléconnexion entre deux écosystèmes qui sont complètement différents. Ce qui s'est arrivé dans un écosystème, ça a impacté un autre écosystème qui était complètement différent. Déjà, il était dans l'océan, et en plus, il était à 10 000 km.
Alors, la question qu'on a envie de se poser aussi, c'est comment est-ce qu'un nuage de fumée peut créer la vie?
Et en fait, il y a beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle les aérosols. On entend beaucoup parler des aérosols en ce moment pour le virus, mais aussi les aérosols sont de toutes petites particules solides qui en fait sont si petites qu'elles peuvent être transportées dans l'air. Le cas le plus clair, en fait, c'est le sable du désert. Quand on a une tempête de sable, enfin, on voit que dans notre voiture, là, il y a plein de sable qui vient tomber et cette sable, il vient du désert, d'une région aride. Et en fait, ce sont de toutes petites particules qui peuvent voyager. Et ça arrive pareil dans la fumée. En fait, dans la fumée de feux de forêt, aussi des industries, dans tous les types de fumée, il n'y a pas que des gaz, il y a aussi des petites particules solides. Ce qui est clé ici, en fait, c'est qu'il y avait déjà quelques études qui se proposaient que ces particules qu'on a en feux de forêt, c'est surtout de matière qui est la matière organique, des petites parties des arbres qui n'ont pas été brûlées. Et du coup, il a les mêmes nutriments que les arbres. Il y a un peu de nitrate, il y a un peu de phosphate, et il y a aussi le fer. Et le fer, c'est un élément qui est super important dans cette région de l'océan. Ce qu'on appelle l'océan Antarctique, ce qu'en anglais, ils appellent le Southern Ocean, sont des eaux anémiques, sont des eaux où il y a une forte manque de fer, au point que si on ajoute une toute petite quantité de fer, on obtient une très forte réponse de phytoplancton. Le fer, c'est ce qu'on appelle c'est un micronutriment, c'est-à-dire qu'on a besoin, mais très peu. C'est pareil pour nous, c'est pareil comme les vitamines. On a besoin de très peu de vitamines, mais c'est très important. Il faut vraiment les avoir. Et c'est la même chose pour la vie marine. Du coup, c'est dans cette eau-là, en fait, qu'on a autour de la Tasmanie, et bon, en fait, au sud de la Tasmanie, mais aussi tout le côté du sud-pacifique, on a des eaux où on trouve plein de nitrates et plein de phosphates. Mais par contre, il n'y a pas de phytoplancton parce qu'il n'y a pas de fer.
L'autre question que je voulais vous poser, j'ai vu aussi que ces algues, ces phytoplanctons, vous supposez, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de réponse définitive à cette question, mais qu'elles ont, d'une certaine manière, joué un rôle de tampon vis-à-vis des quantités gigantesques de dioxyde de carbone qui ont été dégagées par ces incendies. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que c'était plus au cours de ces 3 mois que ce que l'Australie émet sur une année entière, alors que l'Australie est l'un des pays qui pollue le plus au monde, et que ces algues, en fait, eh bien, elles ont absorbé une très très grande quantité de ce dioxyde de carbone. C'est ça ? C'est une sorte d'autorégulation ?
Ça serait très joli, en fait, ça serait tout à fait comme ça, mais on ne le sait pas encore. C'est ce qu'on sait, c'est que ces plantes, et c'est la même chose pour les plantes qu'on a à la maison, et c'est la même chose pour les forêts qu'on a sur Terre, quand elles font la photosynthèse, elles absorbent du CO2 et en fait, elles ajoutent de l'oxygène. Ça, c'est la photosynthèse, ça marche comme ça. Du coup, on a pu mesurer à peu près la concentration de phytoplancton, on a pu estimer combien de CO2 ils ont absorbé, ces phytoplanctons. Du coup, c'est clair qu'il y a eu une absorption de CO2 dans ces eaux-là. La grande question, c'est que qu'est-ce qui s'est passé une fois ces phytoplanctons ont absorbé le CO2 Il y a deux options. Une, c'est que le phytoplancton a été bouffé par zooplancton ou pour d'autres petits animaux. Et du coup, le CO2, ça devient en fait un gaz à nouveau qu'il est amené dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'après 2 semaines, 3 semaines, on a à nouveau le CO2 dans l'atmosphère. Du coup, il n'y a pas d'effet tampon, parce que ça a été juste un petit effet de surface. Soit le phytoplancton, il chute. Ça arrive souvent aussi. En fait, le phytoplancton, ça crée ce qu'on appelle des agrégats qui sont assez grands pour chuter dans l'océan. Et c'est là où on appelle la séquestration de carbone. C'est-à-dire que le carbone est organique, finalement, il finit dans les fonds de l'océan. Et là, oui. Là, en fait, le carbone, il peut rester là des centaines de milliards d'années.
C'est le meilleur scénario pour nous, les humains qui vivons en surface.
Oui, c'est ça. Et en fait, on sait déjà que l'océan, grâce à l'océan, le changement climatique est beaucoup moins fort que ce que ça aurait été. Ça ne s'est fait. C'est clair que l'océan, il a cet effet tampon. Mais c'est très difficile à mesurer dans un cas particulier comme celui-ci. Surtout parce qu'on n'était pas sur place. Et du coup, on ne sait pas s'il y a vraiment quelque chose qui a chuté ou que juste ça reste en surface.
Voilà, c'était la première partie de notre entretien avec le biogéochimiste Johan Hjort. Tout de suite, on écoute la deuxième partie de cette interview. Pour revenir sur ces phytoplanctons, sur ces algues, je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai pu lire que, eh bien, elles apparaissent très vite, que lorsqu'elles sont vivantes, elles mangent un petit peu tout ce qui se trouve autour d'elles, et qu'une fois qu'elles meurent, elles absorbent tout l'oxygène aux alentours, et donc on suppose que ça a pu avoir un impact assez lourd sur la faune et la flore dans cette partie de l'océan austral. Est-ce qu'on en sait plus ? Est-ce qu'on sait si, en plus, enfin voilà, je rappelle, ces phytoplanctons, ils ont couvert une surface supérieure à l'Australie. On imagine que, bah voilà, ça pourrait avoir un impact vraiment catastrophique dans cet océan relativement épargné par l'activité humaine. Est-ce que vous, ça, vous avez eu l'occasion d'en savoir un petit peu plus ? Est-ce qu'il y a moins de baleines ou
C'est une question un peu compliqué en fait, parce que le phytoplancton, les blooms phytoplanctoniques, il peut avoir différents types de blooms phytoplanctoniques. Il y a ce qu'on appelle, en anglais, ça s'appelle le harmful algal bloom, c'est-à-dire que ce sont les blooms phytoplanctoniques qui peuvent faire du mal, et ça arrive que dans des régions côtières où on a des eaux qui sont très peu oxygénées, sont des eaux qui sont beaucoup plutôt chaudes, avec pas trop d'oxygène. Et dans ces cas-là, parfois, il y a une rivière qui ajoute plein de nitrates parce qu'il n'y a pas eu un bon traitement des eaux, par exemple. Dans la Méditerranée, ça arrive beaucoup. Le phytoplancton, il grandit très vite. Et en plus, il y a des types de phytoplancton qui sont toxiques. Ça crée toxines. Et là, ça peut devenir vraiment un truc dangereux. Ça est arrivé en Turquie, en fait, cet été, par exemple, où les œufs sont couverts d'un phytoplanctonique dangereux. Et là, ça peut soit tuer les poissons parce qu'il y a des toxines, soit, et c'est encore pire, ça peut absorber l'oxygène, ça peut, comme vous disiez, il n'y a plus d'oxygène, et s'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, alors les poissons, ils ne peuvent pas respirer. Par contre, dans l'océan ouvert, c'est complètement différent, et c'est là, c'est notre cas, c'était dans l'océan ouvert. Dans l'océan ouvert, on a toujours assez d'oxygène, c'est très rare d'observer de phytoplancton toxique. Du coup, c'est plutôt l'effet contraire. Dès qu'on observe des blooms phytoplanctoniques dans le sein ouvert, on est en train d'observer la vie qui apparaît, en fait. Il faut imaginer qu'on est dans un désert et tout d'un coup, on voit de l'herbe qui apparaît. Une fois qu'on a l'herbe, on va voir de petits insectes, de petits animaux. C'est là où toute la chaîne alimentaire va démarrer. Du coup, dans ces cas-là, c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait d'observer de phytoplancton, parce que ça veut dire que cette région-là, ça a été plutôt une région beaucoup plus riche que d'habitude.
Donc, ces incendies catastrophiques auront peut-être eu une conséquence positive quelque part ailleurs sur la planète. Concernant cette recherche, donc elle vient d'être publiée, est-ce que vous et votre équipe, puisque vous êtes plusieurs à avoir participé à ces travaux, est-ce que il y a des suites qui sont prévues, un approfondissement de vos recherches sur certains aspects que vous avez étudiés?
Oui, il y a deux suites. En fait, cette étude il ouvre plus de questions qui ferme des questions. Il y a une des questions qu'on aimerait beaucoup répondre. C'est pas moi qui je ne focalise pas sur ça, mais c'est plutôt l'équipe américaine. Eux, ils aimeraient bien avoir ce qu'appelle une équipe de réponse rapide, un bateau tout près, au cas où on arrive à observer un autre bloom phytoplanctonique relié au feu, aller avec le bateau sur place et mesurer qu'est-ce que ça arrive dans l'intérieur de l'océan pour essayer de répondre à la question qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu une vraie séquestration de carbone? L'autre question, c'est à laquelle moi je vais m'intéresser plutôt, c'est vu qu'on a des feux, de feux très intenses un peu partout dans le globe, en Arctique, en Méditerranée, dans la Californie, comme ces différents feux, ils peuvent affecter les océans qui sont autour de. Pour moi, un cas très intéressant, en fait, c'est en Sibérie. La fumée de feu de Sibérie, ça arrive dans l'océan Arctique. L'océan Arctique, il est en plein changement, en fait, parce que c'est en train de devenir un océan ouvert, parce qu'il y a moins et moins de glace, du coup, on a beaucoup plus d'eau. Ça peut devenir une zone très productive et même une zone de pêche dans le futur à venir. Du coup, c'est très important d'essayer de comprendre les liens entre les feux de forêt et les océans qui sont tout près. Notamment dans les océans où les activités humaines ils vont grandir dans les années à venir.
Bah écoutez, merci beaucoup Joanne Hjorth pour toutes ces explications et bon courage pour la suite de vos travaux. C'est vraiment passionnant en tout cas. Merci beaucoup.
Merci.
Chancel, lui fort comme un bœuf sous, comme un homme dangereux. De colère qu'à décolle, il titube des grises et chancel. Lui fort comme un bœuf sous, comme un homme dangereux. De furie, il a commis l'homme, l'acte de peu de fierté, menaçant, violent, celle qu'il nomme sa moitié.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau du groupe Bonbon Vaudou et qui s'intitule De colère. Nous, on se retrouve demain à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Abonnez-vous à SBS French. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci à Guy pour la technique et je vous dis à tous à très bientôt.
Puis il fait le coup du remorque, culpabilisation max, la relève l'embrasse, ambigu, tendancieux.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.